Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de passer l'heure qui vient avec vous. Chaque dimanche, grâce aux reporters d'Europe 1 dans le monde, on écoute le monde qui change. Et aujourd'hui, on va entendre cette partie de l'Amérique républicaine et qui pourtant refuse de repartir pour 4 ans avec Donald Trump.
Le Parti démocrate, je n'ai jamais adhéré à leurs valeurs. Il y en a plein que j'aime pas. Mais je pense qu'on a besoin d'une voie de sortie de toute cette confusion, cette division. Et je pense que Joe Biden est cette voie de sortie.
Est-ce que cette frange-là des électeurs jouera un rôle clé dans l'élection? C'est la première page de ces carnets avec notre correspondant permanent Xavier Yvon. Puis nous irons à Goa, imaginez, un petit état balnéaire sur la côte ouest de l'Inde, au bord de la mer d'Arabie, de magnifiques plages, un climat tropical.
Donc on est à Rambol, au nord de Goa, dans un petit village, un peu hippie. Moi je suis arrivée il y a 10 mois, j'étais censée rester qu'un mois.
À Goa, on va rencontrer des Français qui ont posé là leurs valises quand la pandémie a démarré et qui n'ont plus bougé. Le virus, justement, en Europe, un peu partout, il reprend de la vigueur. Et en attendant que certains des 42 candidats vaccins en cours d'élaboration ne soient efficaces, en attendant, on cherche tous les meilleurs gestes barrières, les mesures qui peuvent nous éviter de rester enfermés. Examen de quelques-unes de ces mesures dans 5 pays, Belgique, Allemagne, Russie, Thaïlande ou encore au Japon, où l'on pousse très loin l'idée de la distanciation physique, bien aidée par des robots.
Bonjour et merci de porter un masque. Je viens de mesurer votre température corporelle et elle semble supérieure à 37,5. Je me confonds en excuses, mais je dois vous demander de la contrôler à votre tour à l'aide du thermomètre que vous voyez devant moi.
Un robot très poli, hein, vous aurez remarqué. Le roman choisi par Nicolas Caro nous embarquera en Patagonie. Quant à Joseph Chovanec, c'est un aliment de base croisé dans presque tous ses voyages qui l'inspire aujourd'hui. Il nous racontera des histoires de pain. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination, les États-Unis.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
J-2 semaines et 2 jours avant les élections américaines du 3 novembre, même si plus de 15 millions de personnes ont déjà voté par anticipation, ce que permet le système américain. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Vous nous faites vivre les péripéties de cette campagne sur l'antenne d'Europe 1. Alors pour l'instant, Donald Trump est à la traîne. Le démocrate Joe Biden semble tenir la corde dans tous les sondages. Et dans les forces en action pour faire élire Biden, il y a un mouvement inédit. Ce sont des républicains qui trahissent leur camp. Ces deux dont on va parler avec vous Xavier aujourd'hui, ces républicains contre Trump. Est-ce que déjà ils sont nombreux ?
Alors ça, on le verra exactement avec le résultat de l'élection, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font du bruit, ils sont très visibles. Depuis 4 ans, on le sait, il y a des républicains modérés qui n'approuvent pas la gouvernance à la Trump, mais on ne les avait jamais vus s'organiser jusque-là pour faire campagne contre le président issu de leur propre camp. Alors vous avez une partie des élites conservatrices qui ont publiquement pris position pour Joe Biden, 3 gouverneurs, d'anciens membres des administrations Bush père et fils, 70 ex-responsables de la sécurité nationale qui ont écrit une tribune dénonçant le danger Trump. La liste est longue, il y a même une page Wikipédia pour ça. Et puis il y a carrément des organisations qui mènent des campagnes avec des millions de dollars de budget. Par exemple, Lincoln Project qui s'est spécialisé dans les clips choc destinés à énerver une personne, un téléspectateur, Donald Trump. C'est d'ailleurs une de ces vidéos qui a conduit le président à virer son directeur de campagne. Il y a aussi les électeurs républicains contre Trump. Eux, ils mènent une opération de terrain. Ils collectent des vidéos d'Américains conservateurs qui expliquent pourquoi ils se détournent du président. Et dans l'Ohio, cette campagne a même un nom, l'opération Grant, du nom d'Ulysse Grant, le fameux général nordiste devenu président, qui a réconcilié le pays après la guerre de sécession.
Alors justement, Xavier, vous êtes allé dans l'Ohio et vous y avez rencontré l'un de ces militants républicains anti-Trump. On écoute votre reportage.
Rouler dans l'ouest de l'Ohio en ce début d'automne, c'est voir défiler des champs, des pâturages, des décorations d'Halloween et des panneaux Trump, sauf devant la ferme de Chris Gibbs. Chris Gibbs, barbe blanche, gueule d'acteur hollywoodien, porte avec une élégance naturelle sa chemise poussiéreuse. Le fermier s'active à vider les derniers grains de maïs de son silo. Jamais Chris n'avait gardé du maïs aussi longtemps dans la saison. Les prix étaient trop bas. J'ai attendu, raconte-t-il, mais je n'avais plus le choix. Tout a commencé en 2018 avec la guerre commerciale lancée par le président Trump, explique-t-il. Les pays visés par les barrières douanières ont répliqué, les marchés se sont refermés, notamment la Chine, qui achetait le maïs et le soja de crise. Alors le président a fait ce qu'il fait pour les actrices porno et tout le reste. Il a acheté notre silence, explique Chris, qui détaille les aides financières du gouvernement au secteur agricole. Désabusé, Chris est pourtant un républicain pur jus, patron du parti dans son comté pendant des années. Il a voté Trump en 2016.
So I voted for Donald J. Trump. Boy, was I wrong.
Mon gars, comme j'ai eu tort, répète-t-il en secouant la tête. Le point de rupture, c'était il y a 2 ans. Le fermier assiste en direct à la télévision au sommet Trump-Poutine en Finlande. Le président américain déclare alors qu'il fait plus confiance à son homologue russe qu'à ses propres services de renseignement.
At that moment, I said I'm done.
Là, j'ai dit, c'est fini pour moi. J'ai supporté et justifié les tweets, la méchanceté, les attaques contre nos partenaires commerciaux. J'ai tout avalé. Mais là, je suis descendu du train.
I got off right then.
Chris démissionne du Parti républicain et commence à faire campagne contre Donald Trump. Il écrit des tribunes dans les journaux locaux, se brouille avec des amis et s'allie avec d'autres conservateurs comme lui, déterminés à faire tomber le président. Pas facile dans cet Ohio rural. Il suffit de faire un tour du voisinage dans son 4x4 pour s'en rendre compte. Les pancartes et les drapeaux Trump sont partout, devant chez Dave, par exemple.
I gave that to him 4 years ago.
C'est moi qui lui ai donné cet immense panneau il y a 4 ans, s'amuse Chris, qui s'arrête pour dire bonjour. Dave approuve pleinement le travail de Donald Trump. Tant qu'il n'ouvre pas trop la bouche, rigole-t-il, Chris, lui, tente d'expliquer sa position.
Le Parti démocrate, je n'ai jamais adhéré à leurs valeurs. Il y en a plein que j'aime pas. Mais je pense qu'on a besoin d'une voie de sortie de toute cette confusion, cette division. Et je pense que Joe Biden est cette voie de sortie. Il n'est pas la panacée, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est l'issue de secours pour moi.
Biden, j'ai l'impression qu'il était plus modéré avant. Mais ça me fout les jetons de voir qu'il a avec lui la gauche radicale, Bernie, le socialisme. Et puis toutes ces manifestations, ces émeutes. Pour moi, c'est tout noir ou tout blanc. Je peux juste pas voter pour un démocrate. Je vois pas comment tu peux être un indépendant, je suis désolé.
On se sépare avec des grands sourires en parlant de vaches à vendre.
Ce ne sont pas ces gens-là qu'on peut convaincre. Ce que je cible, c'est une infime minorité. Ce sont des gens qui attendent une permission, qui cherchent quelqu'un qui leur ressemble, qui parle comme eux, quelqu'un dont ils peuvent dire, vous savez quoi ? Chris veut voter pour un président démocrate. Il n'a jamais fait ça avant. Peut-être que je peux moi aussi, juste cette fois-là. C'est eux que je vise. Il en faut juste 2% et on gagne. Boum.
Après, il sera temps de reconstruire un vrai parti républicain avec nos valeurs, conclut Chris. Le fermier a prévu de planter devant chez lui un panneau républicain pour Joe Biden avec une caméra de surveillance pour le protéger.
Retour dans le studio d'Europe 1 et en ligne depuis New York, toujours avec Xavier Yvon. Vous êtes là, Xavier ?
Oui.
On l'entend dans votre reportage, hein, Chris raconte le moment où il a basculé. Est-ce que c'est pareil pour tous ces républicains anti-Trump ?
Oui, oui, c'est pareil. Ils racontent tous leur épiphanie, leur révélation. Prenez Linda Bauer, par exemple. Elle travaille dans la finance. Elle se définit comme, on dit ici, une lifelong Republican, une républicaine pour la vie. Pour elle, le point de bascule, c'est la réponse ou l'absence de réponse de Donald Trump à la pandémie de coronavirus. Elle l'a attrapé juste avant l'été.
Je sais ce que le Covid peut vous faire. Et je me souviens à quel point j'ai eu peur. C'est de sa faute à lui. J'ai passé 5 semaines seule chez moi. J'avais des frissons, des spasmes, personne pour m'aider. J'ai eu peur de mourir. Et la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est parce que Donald Trump a mal géré le Covid dès le début. Il savait dès janvier et pourtant il a minimisé. Il a dit que c'était faux, que ça allait s'en aller. Je lui en veux d'avoir maltraité le peuple américain et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Je suis là donc à faire campagne contre le président issu de mon propre camp. Chacun a eu sa goutte d'eau qu'il a décidé à s'engager. Ça peut être soit la manière dont Donald Trump se considère au-dessus des lois, dont il traite les alliés des États-Unis dans le monde, sa politique d'immigration aussi avec les enfants séparés des parents à la frontière, ça a beaucoup choqué, ou encore la division que Donald Trump encourage entre les Américains.
Xavier, Donald Trump reste quand même très populaire dans son camp. Est-ce que cette frange de républicains réfractaires peut vraiment avoir du poids ?
Alors, c'est vrai que le président sortant jouit d'un soutien très impressionnant à droite. 95% des Américains qui se déclarent républicains approuvent son action selon le sondage de référence Gallup. Ça ne laisse donc pas beaucoup de marge, mais c'est une marge suffisante à écouter Michael Ann Johnson, l'une des porte-paroles de l'opération Grant dans l'Ohio.
Les recherches ont montré que s'il y a 150 000 républicains qui votent Biden, alors qu'ils avaient voté Trump, alors Biden remportera l'Ohio. Et depuis 1960, personne n'a été élu président sans gagner l'Ohio. Nos cibles, ce sont des gens qui sont à la lisière. Ils n'aiment pas Trump, mais ils ont été républicains toute leur vie. Et ils trouvent ça un peu dur de voter pour un démocrate. Et en gros, on essaye de les convaincre que c'est OK, c'est l'avenir de notre pays. Pensez-y. Il faut s'assurer que nous allons rester une démocratie où les citoyens ont voix au chapitre. Et je pense que voter pour Joe Biden, c'est le moyen d'y arriver. Il faut penser au pays en premier avant de penser au parti.
Penser au pays avant de penser au parti. Xavier, est-ce que par ailleurs, Joe Biden ne représente pas finalement le type acceptable pour des républicains modérés ?
Ah oui, exactement, l'ancien vice-président avec un demi-siècle de carrière politique derrière lui est rassurant. C'est ce que me disent ces républicains. C'est un type bien, décent, modéré, respecté, il veut réunir le pays. Il a toujours travaillé avec l'autre camp pour trouver des solutions politiques. C'est vrai que si le candidat démocrate avait été plus à gauche ou moins connu, ça aurait été plus difficile parce que ces républicains vous le disent, ils ne sont pas pour autant devenus des démocrates. Chris, le fermier qu'on a entendu, rappelle notamment que Donald Trump n'est pas arrivé par hasard. Nous en avions assez, nous, les ruraux, les gens du Midwest, d'être méprisé par la gauche, par les élites démocrates, d'avoir à défendre nos valeurs chrétiennes et familiales, et il en a profité. Ça va pas changer. Il va donc falloir trouver un moyen de se réconcilier après l'élection. Mais la première étape, disent-ils, c'est d'en finir avec le trumpisme.
Voilà, l'un des points qu'il faudra observer après l'élection, est-ce qu'il aura manqué quelques républicains à Trump ou pas ? Merci beaucoup Xavier pour ce décryptage et puis pour la balade aussi sur les terres de Chris Gibbs dans l'Ohio. Merci beaucoup, à très vite.
À très vite.
À très vite pour la suite de la campagne américaine sur Europe 1. Et c'est en Inde qu'on file maintenant sur les plages paradisiaques de Goa, où certains Français sont en train de prendre racine, pas très pressés de rentrer tâter du couvre-feu.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La pandémie est-elle moins pénible au soleil ? En mars, le coronavirus paralysait la plus grande partie du trafic mondial aérien. On s'en souvient, les touristes présents à l'étranger étaient d'abord bloqués, puis peu à peu rapatriés vers la France, parfois dans une certaine confusion. Tous, ou presque, parce que certains ont fait le choix, en accord avec le pays où ils se trouvaient, de rester dans ce qui est devenu un peu leur pays d'adoption. C'est notamment le cas de l'état balnéaire de Goa, en Inde. On en retrouve aujourd'hui notre correspondant Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Sophie.
Vous avez rencontré, durant votre passage à Goa, de nombreux Français. Comment expliquer qu'ils soient toujours là après 7 mois de pandémie ?
Ben ça m'a d'abord surpris puisque l'Inde est fermée au tourisme international depuis mars dernier. Et puis à en juger par leur look de hippie des plages, il ne pouvait pas s'agir de diplomates ou d'hommes d'affaires qui eux peuvent toujours voyager vers l'Inde. Et c'est en parlant avec eux que j'ai compris qu'ils n'avaient en réalité jamais quitté les lieux. Beaucoup s'apprêtaient à quitter l'Inde au moment où tous les vols ont été annulés. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Augustin Sol de Montard. Il a écrit un texte sur cette période pleine d'incertitudes appelée « Les carnets de l'Apocalypse ». Et dans ce passage qu'il nous lit, nous sommes le 16 mars et il est en route, en bus, pour l'aéroport de Bombay.
C'est maintenant la veille de mon départ pour retourner vers l'Australie, où je devrais embarquer en mer pour 3 mois. Mais la quarantaine de 7 jours qui collait parfaitement avec mon planning vient de doubler. Je reçois un appel de mon capitaine qui m'annonce qu'ils n'attendront pas. Ils sont bien trop pressés de partir en mer. Après quelques heures de route, un lourd doute commence à s'emparer de moi. La situation mondiale s'aggrave rapidement et les frontières de tous les pays ferment une à une. Mardi 17 mars, 1h30 du matin. J'ai sauté du bus. Je suis sur l'autoroute, quelque part dans le Maharashtra, et je prends des photos de la lune.
Grâce à un ami motard, Augustin réussit ensuite à regagner Goa, et puis son intuition s'avère salutaire, puisque quelques jours plus tard, les frontières intérieures entre les États indiens ferment et les vols sont annulés. Et puis depuis le mois de mai, il existe bien quelques vols de rapatriement pour les Français, mais Augustin a choisi, comme beaucoup d'autres, de rester sur place.
Vous dites qu'il y en a beaucoup d'autres, est-ce qu'on sait combien et pourquoi ils ont fait ce choix de rester ?
C'est difficile de connaître leur nombre, ni le consulat français de Bombay, ni l'Alliance française n'ont pu me renseigner. Quant à leur motivation, la plupart d'entre eux, comme Augustin, ont été pris de court par le bouclage aérien, mais c'est ensuite devenu un vrai choix rationnel. Pourquoi payer pour rentrer dans une France aux prises avec le virus, alors que l'Inde leur laissait la possibilité de rester sous les cocotiers dans ce cadre paradisiaque ? Écoutez Manon Soucy, elle est originaire d'Aix-en-Provence.
Donc on est à Rambol, au nord de Goa, dans un petit village. Un peu hippie. Moi, je suis arrivée il y a 10 mois. J'étais censée rester qu'un mois.
Et là, les liaisons aériennes se ferment. Qu'est-ce que vous vous dites ? Chouette, je suis coincée à Goa. Ou zut, je peux plus rentrer.
Ah ben non, non, non. Moi, j'étais trop contente. Techniquement, on n'a rien vu, quoi. Ça a été en zone verte pratiquement tout le temps. Et enfin, je suis bloquée chez moi juste à cause de la pluie. Mais sinon, parce que dans toutes les cas, c'est l'hiver en France. J'ai pas du tout envie de rentrer. La culture française, je l'ai quand même bien perdue.
Il faut dire que dans cet état riche et rural, le coronavirus n'a pas vraiment fait des ravages. Mmh. Moins de 500 morts pour l'instant, soit 6 fois moins qu'en France, ramené au nombre d'habitants.
Mais ils n'ont pas été confinés comme tout le monde l'a été en Inde le 25 mars ?
Si, absolument. Et puis la vie n'a pas toujours été idyllique. Ouais. D'abord, 2 mois de confinement, suivi de plusieurs mois de mousson dans des petits villages au milieu de la jungle. Augustin raconte.
Et on s'est retrouvé bloqué dans une maison pendant 2 mois et demi. Il y a eu cette annonce donc qui est tombée, donc de fermeture de tous les commerces. Tout le monde était en panique, tous les locaux, mais aussi les étrangers. Ils se ruaient dans les rues, on voyait des femmes avec leurs enfants en baudoulière, les larmes aux yeux qui étaient en pure panique de ne pas pouvoir nourrir leurs enfants pendant les semaines suivantes. On a vu les gens se battre, des magasins fermés, donc à l'entrée des marchés noirs, pour pouvoir essayer de trouver un kilo de lentilles et 1 kilo de riz.
Aujourd'hui, la situation s'est grandement améliorée. Ici, les dernières pluies laissent place au soleil, qui va briller pour de longs mois. Le port du masque, il n'est qu'à moitié respecté et la plupart des commerces sont rouverts. Octobre, c'est le début de la saison touristique à Goa, mais cette année, elle se fera a priori sans touristes étrangers, exception faite de nos exilés.
On entend un petit peu de pluie quand même derrière vous, comme si je puis me permettre. Hein. Bon, donc, lieu paradisiaque pour eux tout seuls, ça fait 7 mois et plus même pour certains qui sont là. Comment est-ce qu'ils gagnent leur croûte quand même ?
Alors d'abord ici, 400 euros par mois suffisent si on sait vivre chichement. Mais il n'empêche, il faut les trouver. Mmh. Augustin s'en sort plutôt bien parce qu'il gère à distance la boutique de dreadlocks qu'il a ouvert à Bordeaux. Il réussit aussi à jouer un peu de didgeridoo avec son groupe pour des bars du coin. C'est un instrument avant des aborigènes australiens. Quant à Manon, elle s'est tournée vers le massage et la fabrication d'un produit à partir des fruits locaux.
Hello.
Bonjour, je vous apporte mon lait de coco.
Merci Manon, je vais te donner 200 roupies.
Il y en a d'autres qui préfèrent rester anonymes, qui profitent des derniers mois de RSA dont ils bénéficient par la France.
Quels sont leurs projets ? Est-ce qu'ils envisagent de rester durablement à Goa ?
Ils sont tous dans le flou parce qu'ils ne savent pas si l'Inde va leur permettre de prolonger ce séjour. Mmh. Mais l'envie qui domine, c'est de rester dans ce petit coin de paradis. Aurélie a 33 ans et elle aime vraiment bien sa nouvelle vie à Goa.
Alors la France ne me manque pas. En moi, en général, une journée, on va dire type ici, ça serait me lever pour aller faire du yoga. Ça, j'aime beaucoup. Ou alors aller sur la plage, puisque nous avons la chance de l'avoir juste ici, tout près. Et puis, on rencontre toujours des amis au café du coin. Où, voilà, on a tous nos habitudes. Il se passe énormément aussi de cours, de danse et autres auxquels, des fois, je participe. Ça dépend de l'humeur. Pour ma part, j'ai un copain indien avec qui je vis depuis un petit peu avant le début du confinement, qui joue de la musique classique indienne.
Aurélie, elle travaille pour une application qui répertorie les soirées locales. Autant dire qu'elle attend le retour de la saison avec impatience. Et comme elle, de nombreux Russes, Israéliens ou Australiens ont fait le choix de rester à Goa. Un symbole de cette nouvelle communauté entre ces touristes exilés, les Goanais et les Indiens. Je vous propose qu'on se quitte au son d'un concert local avec guitare, flûte indienne et au didgeridoo, Augustin Le Bordelais.
Très joli le didgeridoo. Merci Com, merci pour cette carte postale parmi les Français qui ont choisi de vivre la pandémie autrement. C'est la belle saison en plus qui commence. Chance à eux. À bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Cette semaine, c'est donc un livre dans le monde que nous allons découvrir ensemble grâce à Nicolas Carreau. Évidemment, salut Nicolas.
Salut Sophie.
On va loin aujourd'hui, très loin même, avec ce roman. Vous nous emmenez en Patagonie.
Avec l'écrivain argentin Eduardo Fernando Varela. Il est scénariste, il signe son premier roman chez Métellier, Patagonie, route 203.
On dirait que c'est un road trip.
Absolument, mais un road trip au milieu de rien. D'ailleurs, la couverture est assez éloquente. Ouais. On voit une grande route comme ça au milieu de rien. Donc. On est dans le camion de Parker qui transporte des marchandises plus ou moins légales à travers la Patagonie. Je rappelle, la Patagonie, c'est cet immense territoire d'Amérique du Sud qui commence au sud de Buenos Aires et qui descend tout en bas en suivant la cordillère. Donc, c'est pas juste un road trip classique en croisant des villes et des patelins, c'est une sorte d'errance infinie, un peu comme un navire perdu au milieu de l'océan.
Et avec Parker au volant.
Parker qui a sa petite routine. D'abord, il a toujours son saxophone à portée de main. Et le soir, quand il s'arrête, il ne s'installe pas comme un routier dans la cabine du camion. Il s'arrête au milieu de nulle part donc, et il descend sur le bord de la route un canapé, une table, des chaises, un vieux frigo, une lampe, un placard, un lit, une table de chevet. Et voilà, il reconstitue son chez-lui.
C'est une sorte de cow-boy solitaire.
Exactement. On sent que son passé le poursuit, qu'il le fuit un peu sur la route, si on veut faire une métaphore facile. Sauf qu'un jour, il tombe sur une bande de forains et il tombe amoureux de Maïten, qui fait partie de la troupe, sauf qu'il lève le camp et Parker veut absolument la retrouver. On parcourt avec lui les steppes d'Amérique latine, on se retrouve dans des lieux improbables, les salines du désespoir, la mule morte. C'est lui, Eduardo Fernando Varela, qui a inventé les noms, mais à l'image des vrais noms de lieux en Patagonie extrêmement poétiques.
Ça veut dire que l'auteur connaît bien l'endroit.
Il le connaît, oui. Ouais. Et franchement, il n'aurait jamais cru écrire un jour dans ce cadre. C'est ce qu'il m'a expliqué quand il est passé en France il y a quelques jours.
Je fais un service militaire.
Je fais un service militaire obligatoire en Patagonie, dans une région de la Patagonie, à un moment où il y avait une presque guerre entre le Chili et l'Argentine. J'ai donc été sur place, mais ce n'était pas du tout une bonne expérience, je n'ai pas du tout apprécié être là. Et en plus, quand j'ai quitté la Patagonie, j'avais peur qu'on me re-rappelle parce que la guerre allait réellement commencer.
De lo que los militares podían hacer en ese momento.
Alors, quelques années plus tard, quand moi j'arrive en Europe, je rencontre des amis européens, on parle de l'Argentine, et moi je leur dis « Ah, vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez aimé le plus du pays ?» Et ils me disaient systématiquement « La Patagonie ». Alors moi j'étais très surpris, je leur disais « Mais pourquoi est-ce que vous avez aimé la Patagonie ? Il n'y a rien là-bas ». Et ils me répondaient « Justement, parce qu'il n'y a rien ».
Quand il n'y a rien, on peut tout inventer, c'est l'avantage.
Exactement, page blanche. Et il y en a de l'invention, des péripéties délirantes, parfois poétiques et oniriques aussi. Et puis c'est drôle, mais Varela s'est inspiré de la réalité. Il a rencontré le vrai Parker, c'était pendant son service militaire dans une station-service qu'il surveillait.
Et un camionero.
Un camionneur qui était là pour faire le plein d'essence de son camion, il nous a vus, nous, et il a commencé à nous embrasser, à nous serrer dans les bras. Il est extrêmement ému et très touché qu'on soit là, comme si on était de la même famille. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait ça. Et du coup, je lui ai demandé, il m'a expliqué en fait qu'il agissait comme ça, et parce qu'on allait être les dernières personnes qu'il allait voir pendant 5, 6, 7, 8 jours, parce qu'il allait aller tout au sud de la Patagonie, et il allait voir personne, aucun autre être humain. Je pense que ça a créé quelque chose en moi qui a réjailli des années plus tard.
Et voilà, c'est devenu le personnage d'un roman. Et peut-être qu'il ne sait pas qu'il se retrouve dans un roman. Patagonie, route 203, chez Métayer. Et la traduction ?
François Gaudry, et merci à Nicolas Rodriguez-Galvis, éditeur, mais qui s'est improvisé interprète pour l'interview. C'est pas facile, traduction simultanée comme ça.
Parlez pas espagnol.
Pas un mot.
Moi non plus.
Gracias, peut-être.
Allez, gracias, Nicolas, pour cette rencontre. À tout à l'heure pour La Voix et Livre.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Port du masque, distanciation physique, lavage des mains, tout le monde connaît bien ces gestes barrières préconisés un peu partout dans le monde. Au-delà du couvre-feu qui vient d'entrer en vigueur ici en France, c'est toute l'Europe qui durcit les dispositifs de protection avec l'idée d'éviter un nouveau confinement, cet arrêt total de l'activité tellement dévastateur sur tous les plans économiques, sociaux et psychologiques. Alors dans les carnets aujourd'hui, on va se rendre dans certains pays pour observer d'autres mesures plus spécifiques qui ont été prises ici ou là, et puis pour voir si ça marche. On commence en Belgique. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sophie.
Mercredi soir, Emmanuel Macron a demandé aux Français d'être particulièrement vigilants dans leur sphère privée, estimant que c'est là le principal foyer de contamination. Pas plus de 6 à table, c'est la recommandation. Alors c'est la première fois en France qu'on nous dit quoi faire chez nous. Alors qu'en Belgique, Isabelle, c'est une préconisation depuis le début.
Et oui, je crois qu'on peut vraiment dire que la Belgique a été pionnière dans ce domaine en Europe. Dès le mois de mai, à la sortie du confinement, donc les Belges ont découvert ce concept que tout le monde appelle ici la bulle sociale. Certains journalistes avaient même ironisé à l'époque en rebaptisant le pays la Bulgique. Alors votre bulle sociale, eh bien, c'est le nombre de personnes non membres de votre foyer que vous avez le droit de fréquenter sans mesure barrière. Plus joliment, comme l'a dit le ministre belge de la Santé, c'est le nombre d'individus que vous avez encore le droit de câliner et d'embrasser. La bulle sociale a été introduite au moment de la fête des mères. C'était 4 personnes autorisées pour une famille. Ensuite, elle a grossi et rétréci au fil de l'évolution de l'épidémie, mais sans jamais disparaître. Et depuis vendredi, eh bien, elle est à son plus rikiki, si j'ose dire. Vous ne pouvez plus accueillir qu'une personne dans votre bulle. Une personne. Ouais. Voilà, le gouvernement belge s'est appuyé sur des travaux d'universitaires flamands qui ont assez vite indiqué que la limitation des contacts privés permettait de fortement diminuer le nombre d'hospitalisations parce que c'est dans la sphère privée qu'on se contamine entre générations.
Mais pardon Isabelle, mais les chiffres de la Belgique sont très mauvais, hein, on peut le dire. Elle figure parmi les pays les plus contaminés d'Europe. Est-ce que du coup, c'est vraiment efficace la bulle sociale ?
Bonne question. Alors j'ai plutôt le sentiment, mais ça ne s'appuie pas sur une étude ou un sondage, hein, qu'en fait ça ne marche pas parce que la bulle n'est pas respectée. Mmh. Elle est perçue comme une trop grande intrusion dans le domaine privé. Quand les temps sont difficiles, hein, la chaleur de vos amis ou de votre famille, c'est précieux. Au début du mois, quand le gouvernement a annoncé un premier rétrécissement, ça a été difficile à encaisser. Les jeunes ne la respectent pas. Les adultes, eux, ont de leur côté continué à faire des dîners. Mmh. À part quelques seniors, je ne connais personne qui ait respecté à la lettre ce principe ces derniers mois.
Et évidemment, sur ce type de mesure, il ne peut pas être question de contrôle.
Ah non, comment voulez-vous que la police contrôle si vous voyez toujours la même personne ou les mêmes 3 personnes ? C'est plutôt une sorte d'injonction morale, un appel à la responsabilité individuelle. Et récemment, le gouvernement a d'ailleurs introduit une autre mesure en parallèle qui fait écho aux 6 personnes que les Français peuvent recevoir chez eux. Désormais, il y a la bulle sociale et en plus, un nombre de personnes maximum que vous pouvez inviter chez vous. C'est 4 invités maximum, masqués, respectant les mesures barrières. On va voir si l'aggravation de l'épidémie va conduire les Belges à davantage suivre toutes ces consignes.
Oui, c'est pire encore pour les Irlandais qui, depuis cette semaine, n'ont carrément plus le droit de se rendre visite, d'aller les uns chez les autres. Merci beaucoup Isabelle, correspondante en Belgique. Donc, je trouve ça très joli comme mot, la Belgique. À bientôt.
À bientôt Sophie.
En Allemagne aussi, même en Allemagne, a-t-on envie de dire, la situation se dégrade et les autorités ont décidé de nouvelles restrictions dans les 16 Länder, les États régionaux. On ne va pas entrer dans les détails, mais plutôt observer un petit geste tout simple qui est beaucoup plus mis en avant en Allemagne que chez nous. Bonjour Hélène Kohl, chez vous, en Allemagne, on ouvre les fenêtres.
C'est ça Sophie, il y a 10 jours, le gouvernement a fait de l'aération des bâtiments sa 4e recommandation officielle pour lutter contre la propagation du virus après le respect des distances, les règles d'hygiène comme la désinfection des mains et le port du masque. Alors Angela Merkel a justifié cette décision d'une façon très simple, voilà une mesure pas chère et que tout le monde peut comprendre et appliquer. Alors cela vaut en privé, chacun est incité à faire des courants d'air dans son domicile au moins une fois par jour. Mais évidemment, c'est là où il y a les plus fortes concentrations de personnes que cela prend tout son sens. Fenêtres ouvertes donc autant que possible dans les magasins, les entreprises, les bureaux et bien sûr les établissements scolaires.
Et là, il y a un protocole très strict, hein, tout est organisé.
Oui, comme on a régulé le port du masque dans les bâtiments après les vacances d'été, il y a maintenant des règles très strictes à suivre pour empêcher la concentration d'aérosols dans les salles de classe qu'il faut aérer au moins 3 minutes toutes les 20 minutes. Voilà, c'est très précis. Résultat, ici, dans le Land de Berlin, juste avant le début des vacances d'automne, il y a une semaine, les parents d'élèves ont reçu une lettre des autorités sanitaires, les priant de profiter des congés pour acheter des vêtements chauds pour leurs enfants, bonnets, mitaines, voire des plaids pour les jambes des petits, et aussi des thermos. En Rhénanie, il y a même eu une école, tenez-vous bien, qui a fait un achat en gros de bouillottes. Alors, tout ça a fait un peu anecdotique, on se dit que c'est du bricolage, mais il faut savoir aussi que parallèlement, le gouvernement a lancé un plan national de modernisation des systèmes d'aération des bâtiments publics. On parle là de grands travaux qui seront faits dans les musées, les universités, etc., avec à la clé 500 millions d'euros d'aide publique. En attendant que les travaux soient faits, les Allemands vont pouvoir tester l'un de leurs proverbes préférés cet hiver. Eux qui adorent dire qu'on peut sortir par tous les temps, qu'il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements, ils vont pouvoir vérifier si ça marche aussi à l'intérieur.
Merci Hélène. Et on imagine les écoliers avec leurs plaids sur les genoux et des bonnets sur la tête. Et pourquoi pas? Et on met le cap maintenant à l'est de l'Europe. C'est en Russie qu'on vous emmène, où l'épidémie est aussi repartie à la hausse. Mardi dernier, un vice-ministre de la Santé affirmait que 90% des lits d'hôpitaux réservés aux malades du coronavirus étaient occupés. Bonjour Elena Volochine.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondante en Russie. Alors pour lutter contre le virus, Moscou compte beaucoup sur son vaccin, le Sputnik V, actuellement testé sur 40 000 volontaires, mais qui laisse sceptiques les experts étrangers. Mais en attendant, il y a aussi certains outils plus répandus chez vous qu'ici. En l'occurrence, je veux parler des lampes germicides. Expliquez-nous.
Alors comme leur nom l'indique, Sophie, les lampes germicides, ce sont des lampes à rayons ultraviolets qui détruisent les germes, bactéries et autres virus. L'énergie transportée par les rayons UVC endommage l'ADN et l'ARN des micro-organismes, c'est comme ça que ça marche. Alors il en existe de deux types, les lampes dites ouvertes, celles où les tubes lumineux sont à l'air libre, ça fait une lumière bleue, et celles dites fermées où les lampes sont enfermées dans une carcasse. Elles décontaminent l'air de la pièce en l'absorbant et puis elles le restituent sans microbes ni virus. Alors assez logiquement, seules les lampes fermées sont sans danger puisque les rayons UV sont invisibles, mais seules les lampes ouvertes permettent de décontaminer l'air et les surfaces.
Ouais. Est-ce que ces lampes sont vraiment efficaces contre le coronavirus ?
C'est un débat en ce moment et les études internationales envisagent cette possibilité, mais cela n'a pas encore été démontré.
Et pourtant, en Russie, leur usage est très répandu.
Oui, depuis le porte-parole du Centre d'information officielle sur le coronavirus jusqu'aux journaux télévisés, en passant par l'autorité en charge de lutter contre la pandémie, toutes les institutions russes vantent leur usage. Elles sont utilisées dans les hôpitaux, les lieux publics et même les écoles. Il faut savoir qu'en juin, l'autorité sanitaire russe a émis un décret exigeant que les institutions travaillant avec les enfants procèdent régulièrement à la désinfection de l'air.
Et pourtant, Elena, ces lampes ont causé des accidents.
Oui, les lampes ouvertes justement, puisque les rayons ultraviolets causent des brûlures aux yeux. Leur utilisation est d'ailleurs interdite en présence d'êtres humains, d'animaux ou de plantes. Et elles doivent être activées par un individu formé et porteur de lunettes spéciales. Et pourtant, ces règles elles ont été violées au moins deux fois dans des écoles à Moscou et à Blagoveshchensk, c'est dans l'extrême-orient russe. Des institutrices ont oublié d'éteindre ces lampes après les avoir allumées lors des récréations. Oui. Résultat, les élèves ont eu des brûlures à la cornée et cela a donné lieu à des poursuites pénales.
Votre enfant ne voit plus rien, mais on a bien désinfecté sa classe. Voilà. Merci beaucoup, Elena. On préférera peut-être aérer toutes les 20 minutes à l'allemande. Hein. On vous laisse les lampes germicides. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Suite de ce petit dossier sur les gestes barrières spécifiques dans certains pays, tout le monde veut éviter le confinement et cherche pour ça des solutions pour éviter la propagation du virus, mais parfois, ces solutions sont assez différentes de celles qu'on connaît ici. Et c'est donc au Japon qu'on file maintenant, un pays où la distanciation physique, c'est quelque chose d'inné. Jamais de bise ni de poignée de main, pas même de hug au Japon. On se salue toujours à distance. Trop se rapprocher est considéré comme intrusif. C'est ce qu'on appelle la distance d'intimité. Mais les Japonais ont trouvé le moyen d'aller encore plus loin dans l'absence totale de contact. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant à Tokyo et les solutions mises en place au Japon dont vous allez nous parler sont technologiques.
Voilà, le but recherché, c'est donc bien sûr de ne pas se toucher les uns les autres, mais aussi de toucher le moins de choses possible avec les mains. Aux toilettes par exemple, les toilettes publiques ou dans les écoles, de plus en plus souvent ici, vous ouvrez le robinet non avec la main, mais avec le coude, grâce à une petite manette qui a été rajoutée. Ou alors l'eau se met à couler dès que vous mettez vos mains sous le robinet. Et au passage, vous avez intérêt à vous laver les mains correctement parce que le géant de l'électronique Fujitsu a mis au point un système qui se répand dans le secteur de la restauration. Une caméra intelligente filme le personnel en train de se laver les mains, puis alerte les employés qui ont été trop vite et leur prie de recommencer FISA.
Au secours, être surveillé jusque dans les toilettes.
Et Sophie, ne rien toucher avec les mains, ça vaut aussi pour les distributeurs automatiques.
Une institution au Japon, ces distributeurs.
Oui, il y en a vraiment à tous les coins de rue. Ouais. C'est bien pratique, mais pas très hygiénique. Des milliers de clients appuient sur les mêmes boutons et récupèrent leur monnaie dans le petit réceptacle. Bref, ce sont de vrais nids à microbes. C'est pourquoi, de plus en plus ici, vous avez des distributeurs où on sélectionne le produit désiré avec le pied. Les boutons poussoirs ont été repositionnés dans le bas de la machine. Et puis, évidemment, on paye sans contact, par carte, par téléphone ou même par reconnaissance faciale. Avant votre achat, vous encodez votre numéro de carte bancaire et votre photo sur un site internet. Puis la machine, avec sa caméra intelligente, reconnaît votre visage, délivre le produit et débite votre compte en banque.
Et ça marche aussi quand on met quand on porte un masque ?
Oui, oui, la caméra réussit à vous identifier même masqué. Ouais. Ces caméras, on en voit beaucoup à l'entrée des grands magasins à Tokyo. Comme ici, ce petit robot avec un joli costume de samouraï qui est posé sur le comptoir d'accueil et qui, à l'aide de sa caméra intelligente, vérifie que le client porte bien un masque. Si c'est le cas, il vous fait une petite courbette.
Bonjour et bienvenue. Merci infiniment de porter un masque.
Et si vous n'êtes pas masqué, eh bien une alarme retentit. Le robot vous rappelle que le port du masque permet d'éviter la propagation du virus. Mm-hmm. Et là, des vigiles, eux, en chair et en os, interviennent et vous empêchent d'entrer.
La reconnaissance faciale est aussi utilisée à l'entrée de certaines résidences, là encore, pour éviter tout contact.
Exactement. Et donc, vous entrez dans votre immeuble sans pousser la porte, sans clé ni badge, mais parce que les caméras vous ont reconnu. Elles ont mémorisé votre visage, votre physionomie, votre démarche, jusqu'à votre iris dans certains cas. Donc, vous n'avez qu'à regarder les portes pour qu'elles s'ouvrent à votre arrivée.
Ça fait un peu Blade Runner, votre truc, là.
Et à l'entrée d'un immeuble de bureau, Sophie, vous êtes carrément accueillie par un hologramme en 3D. Une sorte de vigile grandeur nature, beau gosse, style manga, mais un vigile virtuel, donc, qui vous scanne avec sa caméra équipée d'un thermomètre infrarouge.
Bonjour et merci de porter un masque. Je viens de mesurer votre température corporelle et elle semble supérieure à 37,5. Je me confonds en excuses, mais je dois vous demander de la contrôler à votre tour à l'aide du thermomètre que vous voyez devant moi.
Au Japon, même les hologrammes se confondent en excuses. Cela dit, tout ça n'assure aucune intimité à celui ou celle qui a de la fièvre et qui va se retrouver sous les regards comme un pestiféré, quoi.
Eh oui. Et donc les vigiles humains suivent ces échanges à distance depuis un bureau vitré et ils n'interviennent que s'il y a un problème. Le but est de réduire au maximum les interactions avec les visiteurs, donc les risques de contagion. C'est aussi ce que recherchent les clients dans les commerces. Ils ont la hantise de se retrouver dans des foules, évidemment. C'est pourquoi de plus en plus souvent au Japon, à l'entrée des grands magasins, des écrans indiquent le nombre de clients à chaque étage et même à chaque rayon. Tout ça est calculé par des caméras intelligentes.
Et vous pouvez aussi avoir l'info à distance, n'est-ce pas, sur votre téléphone ?
Bien sûr, il y a des applis qui vous indiquent en temps réel si telle ou telle boutique est bondée ou pas. Le moins de contact humain possible, c'est aussi ce que propose un snack à Tokyo qui fonctionne sans personnel. Donc, vous y accédez grâce à un code envoyé sur votre smartphone au moment où vous réservez votre table. La carte et le menu du jour sont affichés au mur. Vous commandez en scannant le QR code qui accompagne l'illustration du plat que vous souhaitez. Vous réglez par téléphone, prenez place, puis un petit robot à roulette vous apporte votre plat.
Voici votre commande. Merci d'avoir patienté et bon appétit.
Voilà des restaurants très Covid compatibles.
Voilà, exactement. La haute technologie au service des gestes barrières, ça se passe évidemment au Japon, de manière un peu désincarnée, intrusive même parfois. Nous vivons dans un monde formidable, n'est-ce pas ? Merci Bernard pour cette séquence robotique et techno. Je vous dis à bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Et on reste en Asie, direction la Thaïlande, où l'on retrouve la correspondante d'Europe 1, Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Changement de décor et d'ambiance. Vous allez nous décrire à quoi ressemble la quarantaine chez vous. Alors on peut se dire une quarantaine, une période d'isolement, finalement il y en a à l'entrée de pas mal de pays. Oui mais là c'est particulièrement costaud et en plus c'est du vécu, vous vous y êtes plié le mois dernier en rentrant d'Europe.
Ah oui, tout à fait, ce sont des infos de première main. Alors, le principe est très simple, hein. 16 jours, 15 nuits dans une chambre d'hôtel, sans sortir du tout les 5 premiers jours. Et puis, après un premier test Covid négatif, vous avez le droit d'aller faire un tour dans le couloir.
Ah, super.
Aucune sortie à l'extérieur n'est permise. Les repas sont déposés devant votre porte, 3 fois par jour, par du personnel enveloppé des pieds à la tête dans du plastique. Ce sont en général des barquettes micro-ondes préparées à l'extérieur. Bref, vous avez beau vous dire que c'est pour une bonne cause, l'ambiance est tout de même très carcérale. Certains endroits proposent même aux quarantinés des uniformes pour achever de se mettre dans l'ambiance. Alors, vous n'avez pas le droit de commander vos repas à l'extérieur. Aucune visite n'est autorisée, bien sûr. Les chambres sont individuelles, les familles séparées. Si les enfants sont petits, ils sont placés avec l'un des parents. Un enfant, un adulte maximum par chambre. Pas le droit d'avoir des contacts. Les familles mixtes taille étrangère sont séparées aussi, puisque les Thaïlandais peuvent effectuer leur quarantaine dans des appartements fournis gratuitement par le gouvernement. Mais pour ça, il faut avoir la nationalité thaï et les liens familiaux ne sont pas pris en compte.
Mais parce que les étrangers payent pour être enfermés dans une chambre.
Ah oui, et on paie même ça très cher. Quel que soit votre statut, hein, même si vous êtes résident en Thaïlande depuis 20 ans, ça ne change rien. 1000 euros minimum par personne, y compris les enfants, wow, pour ces 15 jours de détente. Et puis, pour ça, vous avez vraiment le service minimum, hein, tel que je viens de vous le décrire. Les grands hôtels qui proposent des quarantaines peuvent te facturer jusqu'à 3 000-4 000 euros. À ce tarif-là, vous avez le droit, en général, de vous promener autour d'une piscine, mais quand même pas de l'utiliser. Et puis, peut-être dans un jardin intérieur à l'hôtel, si vous avez de la chance. Attention néanmoins, certains usagers ont eu des déconvenus, car malgré les tarifs prohibitifs, ils se sont retrouvés dans des chambres dont ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre. C'est le cas ici de certains hôtels de luxe. Je peux vous dire, Sophie, que 15 jours sans fenêtre, c'est très long. Le gouvernement thaïlandais parle d'une possibilité de réduire ce temps de quarantaine à 10 jours, voire une semaine. Mais pour l'instant, ce ne sont que des projets.
Bon, au moins, est-ce que ça marche ?
Alors c'est vrai que cette politique ultra restrictive semble porter ses fruits, puisque depuis le début de l'épidémie, la Thaïlande n'a enregistré que 3600 cas et une soixantaine de morts. Personne ne rentre dans le pays sans effectuer de quarantaine sous la surveillance de l'État. C'est l'une des politiques les plus sévères au monde, mais une fois qu'on est sorti, qu'on est dehors, à l'intérieur du pays, la vie est normale, pas de restrictions, pas de couvre-feu. Bref, c'est une approche complètement différente de l'approche européenne, même si beaucoup critiquent les lourdes conséquences économiques de ce verrouillage du pays.
Alors, pas de restrictions ni couvre-feu, dites-vous, mais la promulgation jeudi d'un décret d'urgence qui interdit les rassemblements de plus de 4 personnes. Mais si je vous entends bien, pour le coup, le virus serait un prétexte.
Ah oui, cet état d'urgence, il a été décrété pour des raisons, alors le gouvernement dit, de sécurité nationale, parce que les manifestations qui ont commencé déjà il y a plusieurs mois ne cessaient de grandir à Bangkok. Et il y a quelques jours, les manifestants ont accueilli un cortège royal, un cortège qui transportait le roi et la reine en le chahutant un petit peu. Ce sont des images qui ont beaucoup choqué ici. Le virus est une raison supplémentaire pour éviter les rassemblements, mais il n'est clairement pas la raison principale.
Manifestations qui n'arrêtent pas depuis le mois de juillet et qui représentent le plus grand défi depuis des années pour l'establishment au pouvoir en Thaïlande. Merci beaucoup Carole pour ce coup de projecteur sur la quarantaine à la thaïlandaise, 16 jours à la dure dans un hôtel, et vous en êtes bien sortie. À bientôt Carole.
À bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il nous rejoint à chaque fin d'émission, Joseph Chovanec, est philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur infatigable. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Les journées mondiales se suivent et ne se ressemblent pas, mais elles vous inspirent souvent. Et avant-hier, c'était la journée mondiale du pain.
Oui Sophie, c'est très simple. Le pain, c'est mieux que n'importe quel panneau indicateur. Il suffit de le regarder, bien sûr, de le goûter, pour savoir où on se trouve à la surface du globe terrestre. Et comme j'adore manger du pain, très autistique ou pas, peu importe, je me suis construit toute une géographie mentale des pays en fonction des types de pain.
Alors, première question, est-ce qu'il y en a partout d'abord ?
Non, et ça c'est frustrant. Il y a des pays où le pain n'existe pas, ou alors où c'est une sorte de rareté étrangère façon caviar en France. Ah, bien sûr, le cas le plus emblématique de ces pays, c'est la Chine. D'ailleurs, on avait abordé la question il y a longtemps déjà dans l'une de nos premières chroniques. Quand on veut désigner quelqu'un d'inquiétant ou d'étranger en Chine, on peut le qualifier de mangeur de pain. Ceci étant, ce n'est pas tout à fait exact de dire que la Chine traditionnelle ignore le pain. Parce que, par exemple, dans le nord, où on cultive plus le blé et moins le riz, il y a le mantou. Donc, c'est un petit pain blanc cuit à la vapeur. Et le mantou m'a sauvé la vie bien des fois en
Chine. Pourquoi vous aviez faim en Chine ?
Je me souviendrai de mes premiers temps à Pékin où j'étais perdu, je ne savais pas quoi manger et les mantou furent ma planche de salut. J'y ai pris goût, je crois que leur couleur blanche parfaite, leur texture et normalement leur température, ça se mange chaud dans l'idéal, en font une nourriture autistique idéale. Mieux encore, ils sont très faciles à manger avec des baguettes quand on est maladroit comme moi. Et je n'oublierai pas le regard de l'employé d'un resto où j'étais, où il y avait de grands buffets chargés de victuailles, mais où je m'étais rué sur les manteaux et je n'avais rempli mon petite assiette.
Bon, mais alors à part la Chine et sa quasi-absence de pain, ailleurs ?
À l'inverse, il y a des pays à pain. Ouais. En Europe de l'Est, en termes de quantité et de nombre de variétés de pain, on dépasse l'Europe de l'Ouest, à mon avis. Le pain y est plus qu'un aliment, c'est un symbole d'hospitalité. Dans la littérature russe classique, vous accueillir les gens au pain et au sel. Mmh. Hein. Et cette place du pain est si importante que la nourriture en général prend souvent la forme du pain. Dans beaucoup de pays de l'ex-URSS, on voit partout dans les rues les vendeurs de pirashki. Hein. Ce sont des petits pains remplis de diverses choses, souvent de la viande, hein. Ça me fait un peu peur, ou de fromage, ça c'est plus facile pour moi. Mmh. Dieu sait combien j'en ai mangé. L'autre avantage, c'est que leur consommation est si banale que vous n'avez même pas à socialiser avec le vendeur. Rien qu'en vous approchant du stand, il sait ce que vous voulez.
En tout cas, là, ces petits pains sont des contenants et on met toutes sortes d'aliments dedans, quoi.
Oui, comme une sorte d'assiette. Hein. Et le pain assiette, par excellence, on le trouve en Afrique orientale, notamment en Éthiopie, le fameux injera. Hein. Ce pain-là, c'est à la fois, j'allais dire, les couverts, hein, puisqu'on s'en sert pour prendre la nourriture, mais aussi l'assiette que l'on mange en dernier, bien sûr.
Moi, je me souviens d'un pain incroyable, cuit sous mes yeux, dans le sable du désert tunisien, le sable et la braise, et en plus il était délicieux.
Ah oui, les beaux souvenirs. Pour moi, j'en ai aussi des souvenirs de pain du désert, plutôt d'Asie centrale ou d'Iran, quoi. Le fameux nane sangaka, littéralement le pain de la pierre, hein, parce qu'il est cuit sur la pierre, que l'on cuit devant vous. Hein. Et la saveur et l'odeur de ce pain sont inoubliables. Et vous les voyez aussi dans le regard de vos copains hein, qui mangent le pain copains. Avec vous. Et éprouvez et testez, aucune conversation, quel que soit le sujet, ne tient face à l'arrivée du nane sangaka qui interrompt tout simplement tout. Donc pour se construire, ce qui compte, hein, ce ne sont pas les quantités de victuailles, mais ce parfum d'éternité. Il y a un dicton pashtoun pour le dire, hein, lakhwara, talkhwara, derkhwara, gandarkhwara. Hein, donc mange un peu, mange pour toujours. Mange beaucoup, mange des déchets.
Ah oui, d'accord, compris, Joseph. Repas frugal pour tout le monde à midi.
Enfin, à tout bientôt.
Merci Joseph, à dimanche prochain. Et voilà, il est temps de refermer les carnets du monde. Un grand merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore dans nos vadrouilles. Vadrouilles que vous pouvez retrouver sur europe1.fr à la page des carnets pour les réécouter, les partager, vous abonner. N'hésitez pas, c'est cadeau. Cadeau aussi, La Voix est libre dans quelques minutes avec Nicolas Carreau qui est déjà là. Qu'est-ce qui nous attend, Nicolas ?
Ah bah un événement un peu aujourd'hui. Je reçois Philippe Djian pendant toute l'heure.
Ah ouais, pas mal.
Et puis nous visiterons la bibliothèque de Michel Cotta. Et il y a des romans, il n'y a pas que des livres politiques.
Super, à tout de suite.
À tout de suite.
Et je remercie Marc Fréjean qui réalise les carnets, Marion Gauthier qui m'aide à les préparer. Tous ensemble, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. Ce sera une page écrite par François Claus, à qui je confie les clés. Portez-vous bien.
Europe 1, les carnets du monde.